tous, bienvenue sur ce nouveau format, le podcast des coachs digitaux. Après réflexion, c'est le meilleur moyen, en tout cas le moyen le plus simple pour vous partager de façon synthétique nos apprentissages lors des derniers ateliers. Bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode. C'est l'occasion de revenir sur les points clés des ateliers autour du thème de l'identité numérique. C'est le sujet qui nous concerne tous. Nous vivons dans une époque où, que nous le souhaitions ou non, nous laissons des traces derrière nous à la moindre navigation sur le web. Toutes ces heures de connexion, ces photos, ces commentaires que nous mettons en ligne constituent notre identité numérique. À titre d'exemple, aujourd'hui en 2019, sur une minute, il y a 87 500 personnes qui tweetent, 3,8 millions de recherches sur Google, 41,6 millions de messages envoyés sur les messageries instantanées comme Messenger et WhatsApp. Par conséquent, l'identité numérique, c'est tout simplement l'ensemble des informations vous concernant qu'on peut retrouver sur Internet, qu'il s'agisse de photos, vidéos ou commentaires que vous mettez en ligne, mais aussi d'images que vous likez, partagez, articles que vous lisez, des sites que vous consultez, etc. Toutes ces informations sont appelées des données personnelles. Une donnée personnelle, au sens de la loi, est une donnée qui permet de vous identifier directement ou indirectement. Un nom, un prénom, un numéro de téléphone, mais aussi un extrait de votre voix, une vidéo ou une photo où vous apparaissez. Ces données personnelles que vous laissez en ligne, de manière volontaire ou non, permettent donc de dresser un portrait robot numérique de vous. Elles renseignent de manière plus ou moins précise sur vos centres d'intérêt, à qui vous êtes en relation, quelles sont vos activités, ce que vous en pensez de tel ou tel sujet. Il s'agit donc d'un mélange entre ce que vous montrez et ce que vous cachez, ce que les autres perçoivent et ce qui vous échappe. Un peu comme dans la vie en fait. On peut voir qu'on peut distinguer deux éléments, l'identité numérique ou l'irréputation. La grosse différence entre les deux est que vous pouvez maîtriser votre identité numérique, à l'inverse de votre irréputation qui ne dépend pas de vous. L'identité numérique, c'est ce que vous publiez, commentez et montrez de vous. Vous êtes à l'origine de ces publications et, normalement, vous les maîtrisez. La irréputation, c'est ce que les gens disent de vous en ligne. À part éventuellement essayer de limiter les commentaires négatifs ou autres, vous ne pouvez pas maîtriser ce qui se dit de vous. Si le sujet de l'irréputation vous intéresse, je vous invite à écouter ou réécouter les premiers podcasts de cette série. Faisons un zoom sur les applications mobiles et leur gestion de nos données personnelles. Saviez-vous, lorsque vous installez une application sur Android, celle-ci peut vous demander jusqu'à 60 permissions d'accès différentes aux informations contenues dans votre téléphone ? Cela peut aller de la géolocalisation jusqu'à contrôler l'accès à vos contacts ou votre micro et votre caméra. Il faut comprendre les enjeux. On rappelle que notre identité numérique permet de dresser un portrait robot de nos goûts, nos habitudes. C'est de composer toutes les données personnelles qu'on laisse en ligne, volontairement ou non. Une donnée personnelle est une donnée qui permet de nous identifier directement ou indirectement. Tout l'intérêt pour ces implications-là, qui sont pour le plus souvent gratuites, est de récolter les données les plus pertinentes pour pouvoir les revendre au meilleur prix. Après les applications mobiles, on peut faire le parallèle tout de suite avec le navigateur Internet. Navigateur qui est notre fenêtre sur le web et Internet via différents plugins et autres fonctionnalités, nous pouvons accéder à tout un tas de services très pratiques et gratuits pour faciliter notre navigation. Gratuit, vraiment. Derrière chaque navigateur, il y a une entreprise multinationale, Microsoft derrière Internet Explorer, Google derrière Chrome, Apple derrière Safari, etc. etc. Pour générer des forts revenus, bien sûr, c'est tout simplement en vendant nos données personnelles. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Moi, ce que je vous propose, c'est des alternatives libres et open source comme Quant, DuckDuckGo, Ecosia, mais aussi des bonnes pratiques. Pour limiter l'accès à vos données, il faut donc supprimer régulièrement votre historique et vos cookies, indiquer au site que vous refusez d'être pisté et utiliser quand vous voulez ou quand vous le pouvez la navigation privée et un bloqueur de publicité. Vous pouvez retrouver l'ensemble des modes opératoires et des liens vers ses sites web sur la présentation des coachs digitaux. Dernier élément aujourd'hui, le cookie. Un cookie, c'est quoi ? Ce sont des petits fichiers composés de texte et déposés sur votre ordinateur par les sites que vous visitez lorsque vous surfez sur Internet. Ils sont enregistrés sur votre disque dur par le navigateur. À quoi servent-ils ? Prenons un exemple. Vous êtes en train de surfer sur Internet et vous repérez une paire de chaussures que vous vouliez acheter depuis longtemps. Vous l'ajoutez à votre panier, mais votre téléphone sonne, Patrick vous invite à boire un café. Chouette, la paire de chaussures attendra. Vous éteignez votre ordinateur et partez rejoindre Patrick. Quand vous revenez, vous rallumez votre ordinateur et magie, votre paire de chaussures attend toujours sagement dans le panier du site où vous étiez. Le navigateur a enregistré votre commande dans un cookie qu'il a placé sur votre ordinateur afin de pouvoir retrouver votre commande même lorsque vous quittez le site. Les cookies sont utilisés sur les sites commerciaux, mais également pour retenir vos logins, les mots de passe, les différentes saisies réalisées dans un site, les différentes informations des réseaux sociaux, tous les différents paramètres vous concernant, etc. Tout ceci a l'air bien inoffensif et surtout très pratique à première vue, mais pourquoi s'y intéresser ? Comme j'ai dit au-dessus, les cookies enregistrent un grand nombre d'informations que nous laissons derrière nous. On voit tout de suite où je veux en venir, que ce soit nos commandes, mais également nos informations de connexion et nos informations de géolocalisation pour certains sites. Au mieux, vous recevrez de la publicité ciblée. Au pire, on peut retrouver des informations très privées sur vous et les utiliser. Petite question. Il n'y a que le site sur lequel je suis qui peut voir ces infos. On a souvent l'impression, lorsqu'on regarde un site, que toutes les informations qui s'affichent viennent du même endroit. Alors qu'en fait, beaucoup d'entre elles viennent d'autres sites, comme les pubs ou les bannières. Donc, à travers cette page, il y a d'autres sites qui peuvent observer dans un coin ce que vous faites, où vous cliquez, et qui peuvent du coup enregistrer aussi ces informations. Saviez-vous que le bouton « J'aime » ou le petit bouton « Partage » indique à Facebook, même si vous n'avez pas de compte, que vous avez été sur le site et que vous avez cliqué ? Le fait de ne pas cliquer leur permet également de définir votre comportement d'internaute. Tous ces cookies ne sont pas invisibles, vous pouvez les repérer et les supprimer. C'est donc pour cette raison qu'il est important de faire le ménage régulièrement derrière soi. Par conséquent, je vous propose plusieurs outils pour les navigateurs DuckDuckGo et Quant. Avec leur recherche éthique, ces moteurs de recherche ne vous tracent pas et ne revendent pas votre historique de recherche. Un stop pub, uBlock, permet d'autoriser la pub seulement sur les sites choisis et n'a pas signé d'accord avec les publicitaires contrairement à AdBlock. Traquer les trackers, l'extension Privacy Badger vous permet de bloquer les mouchards publicitaires qui suivent votre navigation sur Internet, comme les boutons j'aime. Vous avez des stop tracking avec Firefox Focus qui vous permet la navigation privée et aussi rapide que Chrome. Vous pouvez brouiller le signal avec TrackMeNote, c'est une extension pour navigateur qui effectue des recherches aléatoires pour éviter le profilage. En ce qui concerne les mails, vous avez ProtonMail, la messagerie ultra sécurisée et chiffrée. ProtonMail a été développée en Suisse par des scientifiques du CERN. En ce qui concerne la messagerie, vous avez Telegram, qui est une alternative à WhatsApp et Messenger, entièrement crypté et sans revente de données personnelles. Et après, vous pouvez carrément changer le système en ce qui concerne Windows et Apple sur l'ordinateur avec Linux et Ubuntu, qui est une alternative facile d'utilisation et entièrement paramétrable. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dans un prochain atelier coach digital. N'hésitez pas à partager ce podcast au plus grand nombre. Et je vous dis à bientôt.
De raconter un peu ma vie, voilà.